Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 2. Nous allons poursuivre, reprendre même, la série de prédications que nous avions commencé déjà dans cet évangile. Ça faisait un moment qu'on avait été en pause et je commence par un rappel, ou par quelques rappels. Cet évangile donc écrit par Matthieu, un des apôtres du Seigneur, inspiré par l'Esprit de Dieu, et on peut dire le livre de la vie du Christ. Et le but est de conserver et de répandre la connaissance du Christ. Les choses que Christ a faites, ce qu'il a vécu et ce qu'il a enseigné. Ces choses qui nous montrent qu'il est effectivement le Messie, c'est-à-dire le roi et le sauveur que les prophètes avaient annoncé d'avance de la part de Dieu. Il est effectivement, et on le voit tout au long de l'évangile de Matthieu, et dans les premiers chapitres déjà, le fils de David, le fils d'Abraham, celui qui devait régner non seulement sur Israël, le roi des Juifs, mais celui à qui Dieu avait promis un règne, un royaume qui s'étendrait à toutes les nations. Souvenez-vous, nous avions déjà vu quelques confirmations du fait que Jésus est le Christ, le Messie. Il est né de la Vierge Marie, ainsi qu'Ésaïe l'avait annoncé. Il attire à lui, de manière surnaturelle, ceux qui le reconnaissent comme Messie. Nous pensons là aux mages, qui sont venus de loin se prosterner devant lui et lui rendre hommage. Ils ont vu en lui le roi des Juifs, mais aussi le roi des nations. Nous avons vu une autre confirmation dans le fait que Jésus provoque aussi l'opposition et l'hostilité. Genèse chapitre 3, Dieu annonce à Ève, après son péché, qu'il y aura deux lignées dans l'humanité, deux descendances, et que ces deux lignées seront en hostilité spirituellement parlant. L'une est appelée la descendance de la femme, l'autre la descendance du serpent, et Jésus-Christ vient être par excellence le représentant de la lignée de la femme. Et Hérode, qui est ici un des héritiers du serpent, spirituellement opposé à Dieu, démontre son hostilité envers le Christ. Non seulement en cherchant à le faire périr, mais en massacrant aussi une multitude d'enfants dans le but de faire mourir le Christ. Nous avons vu aussi que Jésus est bien celui qui était annoncé, puisqu'il vient récapituler dans sa vie, représenter quelques événements de l'histoire du peuple d'Israël. Souvenez-vous, l'Exode. Jésus lui-même passe par un exode. Il est exilé en quelque sorte du territoire d'Israël, puis appelé hors d'Égypte comme Israël autrefois. Il est ce nouveau fils, celui qui vient remplacer Israël et réussir là où le peuple de l'Ancienne Alliance a échoué. Et au chapitre 2, nous avons une série de quatre prophéties concernant le Christ Jésus. Nous avions vu la prophétie de sa naissance à Bethléem, annoncée par le prophète Michée au chapitre 5. Nous avions vu cette prophétie qu'il sortirait d'Égypte, qu'il serait appelé hors d'Égypte, le Fils de Dieu. Et nous avons vu aussi cette prophétie concernant les pleurs de Rachel, qui évoque le jugement de Dieu, cette période où Dieu juge le peuple et effectivement est en train de mettre un terme à l'alliance ancienne avec le peuple. À cause des nombreux et répétés péchés du peuple, de ces nombreuses prostitutions spirituelles, comme les prophètes le disaient. Ils se tournent vers les idoles et se détournent du Dieu vivant. Ce matin, nous voyons la quatrième de ces quatre prophéties dans le chapitre 2. Il sera appelé Nazaréen. Il sera appelé Nazaréen. Lisons ensemble les versets 19 à 23. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte, et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. Prions encore une fois ensemble. Louange à toi, notre Dieu, de nous avoir transmis ces oracles divins, ces paroles divinement inspirées qui nous parlent de ton Fils Jésus et de comment tu nous as envoyé un sauveur pour nous sauver de nos péchés. Gloire à toi de t'intéresser tellement à nous que tu nous parles. Oh, parle-nous encore ce matin, Père, et que tu m'accordes la clarté à la fois dans mes pensées, mais aussi dans mes paroles, et que tu donnes à tous ceux qui t'aiment ce matin de t'écouter avec attention, avec enthousiasme et dans l'attente d'être béni par ta parole. Que ceux aussi parmi nous qui ne sont pas encore réconciliés avec toi puissent être interpellés, que ton Esprit Saint soit à l'œuvre et que Jésus-Christ, pour sa vie, sa mort et sa résurrection, reçoive encore l'honneur et les mérites qui lui sont dus. Amen. Voilà donc après quelques semaines ou quelques mois, on ne sait pas exactement combien de temps, Jésus a passé en Égypte avec Joseph et Marie. Et Hérode, qui en voulait à sa vie, est mort. Et donc Dieu, conformément à ce qu'il avait annoncé et prévu, va appeler Jésus hors d'Égypte. Il envoie son ange qui annonce à Joseph la même chose, ou en tout cas dans la même manière qu'il l'avait annoncé la première fois lorsqu'il lui a dit de quitter Israël. Maintenant, reviens. Je ne sais pas si vous avez noté, mais il y a vraiment une proximité du langage entre le verset 13 et suivant, lorsque Dieu va annoncer par l'ange de sortir, et les versets 19 et suivant, lorsque Dieu annonce par l'ange de revenir. Verset 13, après leur départ, le départ des mages, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire périr. » Et Joseph se lève, prend le petit enfant et sa mère et part. Verset 19, après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se lève, prend le petit enfant et sa mère, et retourne en Israël. Dieu n'a pas oublié ce qu'il avait dit. Dieu est fidèle à sa parole, et nous y reviendrons tout à l'heure. Mais nous avons là un premier encouragement. Quand bien même des éléments perturbateurs pourraient arriver dans les circonstances de la vie des disciples de Jésus-Christ, nous devrions être constamment assurés, nous souvenir que Dieu, lui, n'est pas perturbé et que sa parole ne tombe pas à l'eau. Voilà donc que le roi Hérode est mort et donc l'ange apparaît à Joseph pour lui demander de retourner en Israël, ce qu'il fait. Joseph est un homme pieux, et lorsqu'il reçoit la consigne de Dieu, avec empressement et sans tarder, il la met en pratique. Joseph se lève donc, verset 21, prend le petit enfant et sa mère et rentre dans le pays d'Israël. Mais un souci de taille est rencontré lorsqu'il retourne en Israël. C'est que le fils d'Hérode, le fils de ce tyran à cause duquel ils ont dû fuir, est maintenant le roi, le nouveau roi en Judée. Et Joseph craint de rester dans cette zone. Il craint probablement que Archélaüs ait des projets similaires à ceux de son père et qu'il cherche à nuire à la vie du Christ. Et Dieu, qui s'inquiète, ou en tout cas qui tient compte, disons-le plutôt comme ça, des craintes de ses serviteurs, qui ne méprise pas les préoccupations de ceux qui le craignent et ceux qui l'aiment, eh bien, Dieu prête attention à ce souci de Joseph, à cette inquiétude. Et donc Dieu, par un songe, l'avertit divinement de se retirer dans le territoire de la Galilée. Et où vient-il ? Dans la ville de Nazareth. L'affirmation principale de ce message ce matin, si vous devez retenir une chose, c'est la suivante. Dieu se charge de la réputation de Jésus. Dieu se charge de la réputation de Jésus. Voyons ensemble d'abord, il sera appelé Nazaréen, verset 23. Autrement dit, c'est un habitant de Nazareth. Ça, c'est le sens le plus simple, le plus évident. Mais j'espère que vous vous posez la question, ou que vous vous doutez en tout cas, qu'il y a plus que simplement l'identification de Jésus avec la ville dans laquelle il a grandi. Certes, il va y passer la plupart du temps de sa vie, près d'une trentaine d'années. Il sera élevé dans cette ville, il grandira entouré des habitants de cette ville. Mais est-ce vraiment simplement pour ça qu'il sera appelé Nazaréen ? Il y a certainement plus. Plus parce que, vous l'avez lu comme moi, il est dit que c'est annoncé par les prophètes. C'est quelque chose que Dieu d'avance avait annoncé par l'intermédiaire de ses porte-paroles. N'hésitez pas à prier pour moi, pour que je reste concentré et que je vous sois utile jusqu'au bout. Nazareth était une ville de Galilée et le théologien et missionnaire Edersheim, dans un de ses livres, nous parle un peu de la réputation des Galiléens. C'est très intéressant. Il dit que les Galiléens étaient particulièrement méprisés en Israël. Et en particulier, méprisés par la région principale en Israël, c'est-à-dire la Judée et Jérusalem, là où se trouvait le temple, là où se trouvaient les leaders religieux. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient méprisés ? Eh bien, pour plusieurs raisons, notamment parce que leur piété et leur approche de la religion étaient un peu plus relâchées. Ils étaient considérés comme moins rigoureux ou moins rigoristes qu'en Judée. D'autre part, ils étaient aussi souvent des hommes, des femmes au fort tempérament. Ils étaient réputés pour être assez, pour certains d'entre eux, sanguins. En tout cas, un tempérament assez vif. Ce serait un peu comme, je ne sais pas si en France, on pense à une région, effectivement, je pensais aussi à cette région du Sud, on dirait probablement des Marseillais. Un tempérament assez solaire, assez énergique, un tempérament fort. Une autre raison encore du mépris qui était souvent à l'encontre des Galiléens vient du fait qu'ils étaient généralement moins éduqués et notamment pas très rigoureux dans l'étude de leur propre dialecte. Ils étaient apparemment réputés pour faire beaucoup de fautes de syntaxe, beaucoup de fautes d'orthographe. Et là, je ne sais pas, maintenant, je vous laisse penser à des gens peut-être autour de vous qui correspondraient à cette description. Mais de ce fait, il y avait même une expression qui était « galiléen ». Ça voulait dire, en gros, « idiot ». Notamment, on raconte l'histoire d'une femme assez riche, juive, qui discutait avec un rabbin, et ce rabbin, pour lui répondre à une question, avait employé de manière maladroite des mots inutiles. Et en entendant sa réponse, elle lui dit « Galiléen », autrement dit « idiot ». Et donc, avec ce contexte, on peut tout à fait imaginer la réputation qui serait celle de Christ. Serait-il crédible que celui-là, ce Nazaréen, soit le Messie, le Sauveur du monde ? J'aimerais vous montrer quelques confirmations bibliques de cette mauvaise réputation de la Galilée et en particulier de Nazareth. On l'a lu tout à l'heure, mais on peut y revenir rapidement dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, versets 45 et 46, lorsque les premiers disciples rencontrent Jésus et réalisent qu'il est le Christ, ils vont voir ce Nathanaël. Nathanaël qui recevra l'éloge du Christ un peu plus tard, parce que le Christ dira « Il ne se trouve en lui pas de fourberie, pas de tromperie, c'est un homme honnête ». Et quelle est la réaction de cet homme honnête lorsque Philippe le trouve et lui dit, verset 45, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Eh bien, verset 46, Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Autrement dit, tu as déjà vu quelque chose d'utile, un personnage honnête, recommandable, qui vienne de ce trou. Voilà la réputation de Nazareth et la réputation de la Galilée. Si vous avancez un petit peu dans le même évangile, au chapitre 7, voilà les discussions de la foule et des pharisiens au sujet du Christ. Ils se demandent, mais qui est-il finalement ? Et il y a des avis un peu divergents. Et je lis à partir du verset 40 jusqu'au verset 52. Je lis assez vite, suivez avec moi. Des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». Jésus venait d'annoncer l'œuvre de l'Esprit qui serait permise par l'intermédiaire de l'œuvre du Christ. Verset 41, d'autres disaient « Celui-ci est le Christ ». Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David, c'est-à-dire d'une meilleure lignée, un meilleur pédigré, et du village de Bethléem, d'où était David, que le Christ doit venir ? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne porta les mains sur lui. Les gardes retournèrent vers les principaux sacrificateurs. Ils avaient été envoyés pour arrêter le Christ. Et les pharisiens qui leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits, vous avez été trompés, dupés ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu précédemment vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi juge-t-elle un homme avant qu'on l'ait entendu et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Nicodème souligne quelque chose qu'on va voir après. Ils étaient remplis de préjugés, n'est-ce pas ? Verset 52. Ils lui répondirent, « Serais-tu, toi aussi, de la Galilée ?» Autrement dit, c'est pas juste. Est-ce que tu viens du même coin que lui ? C'est pour ça que tu le défends. C'est probablement plus. Est-ce que toi aussi, tu es insensé, stupide ? Cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. Voilà donc pour la réputation de cette région d'Israël. Et si on revient à Matthieu chapitre 2, verset 23, nous voyons, comme je l'ai dit, que ça a été annoncé par les prophètes que Jésus serait appelé Nazaréen. Maintenant, une précision. Vous ne trouverez nulle part dans l'Ancien Testament un prophète qui déclare mot à mot « Il sera appelé Nazaréen ». Contrairement aux prophéties qui précèdent, que nous avons vues, hein, celle de Bethléem, celle de Rachel qui pleure, celle de la sortie d'Égypte, où nous trouvons exactement ces prophéties à des endroits précis de l'Ancien Testament, nulle part dans l'Ancien Testament, vous ne trouvez un prophète qui dise « Il sera appelé Nazaréen ». Alors, où est-ce que Matthieu va en venir ? Eh bien, regardez avec moi le texte, soyons précis. Verset 23, Matthieu nous dit « Ça avait été annoncé non pas par le prophète, mais par les prophètes ». Autrement dit, Matthieu est en train de dire « Je vous donne ici un résumé, un condensé, je résume ce que les prophètes ont enseigné concernant le mépris que le Christ connaîtrait, les préjugés dont il serait la victime, les mauvais traitements, la mauvaise réputation qui serait sur lui. Okay ? Là où les autres prophéties qui précèdent, il parle bien d'un prophète au singulier, identifié. Notez encore une comparaison, il nous est dit « il sera appelé ». C'est quelque chose qui devrait faire écho à quelque chose qu'on avait vu au chapitre 1, verset 21, quand il était dit « et tu lui donneras le nom de Jésus » ou « tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Et enfin, verset 23, « on lui donnera le nom d'Emmanuel » ou « son nom sera appelé littéralement Emmanuel ». On voit là un lien qui nous montre qu'il s'agit de quelque chose qui décrit la personne du Christ. Il sera appelé Nazaréen. Ce n'est pas juste qu'il est né là, ça le décrit. Mais il y a une différence entre les deux appellations du chapitre 1 et celle du chapitre 2 ici. Est-ce que vous avez remarqué laquelle ? On fait un peu de grammaire, désolé, mais ça nous aide à comprendre le texte. Au chapitre 1, les deux appellations sont à l'actif, alors qu'ici, au chapitre 2, c'est au passif. Quelle est la différence ? Eh bien, c'est que pour les deux premiers, le nom de Jésus et le nom d'Emmanuel, Dieu est directement l'auteur, si l'on veut, directement en train d'agir pour que Jésus soit appelé Jésus et qu'il soit aussi doté du titre d'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais en ce qui concerne l'appellation nazaréen, c'est au passif. C'est comme si, ici, Matthieu montre que Dieu est à l'œuvre, certes, mais de manière indirecte. Dieu, ici, a permis les hommes de mépriser Jésus. Il a permis à ce que les hommes imputent au Christ une mauvaise réputation. Dieu l'avait prévu et il a laissé que cela arrive. En résumé donc, Dieu se charge de la réputation du Messie et il permet même qu'il soit déconsidéré et méprisé. Il y a plein de textes dans l'Ancien Testament qui l'annoncent, parce que peut-être que la question qu'on se pose c'est « Ok, les prophètes, c'est l'enseignement résumé de ce qu'ils disent concernant le mépris du Christ, mais où concrètement on voit cela ?» Regardez avec moi Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53, et nous allons lire le verset 3, puis le verset 9. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Verset 9. On a mis sa tombe parmi les méchants, c'est-à-dire qu'on l'a jugé comme s'il était méchant. Nous l'avons méprisé, nous lui avons donné une mauvaise réputation. Son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence, et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il y aurait bien d'autres textes encore qui iraient dans ce sens. Vous pouvez simplement noter, si vous prenez des notes, le psaume 22, le psaume 69, mais aussi nous trouvons cela dans Zacharie au chapitre 11, lorsque Matthieu le citera d'ailleurs plus tard. Ils estiment que le prix de leur maître n'est que de 30 pièces, le prix d'un esclave. Dieu se charge donc de la réputation du Messie, de son Messie, et il permet même qu'il soit déconsidéré et méprisé. Venons-en à quatre leçons que nous pouvons tirer de cela, puis à quatre applications. Première leçon, Christ donc n'a pas eu à souffrir uniquement dans sa chair, mais il a aussi souffert dans son âme, pourrait-on dire. Il a aussi souffert dans son être intérieur. Lequel d'entre vous, ici, a apprécié, si vous l'avez déjà été, d'être méprisé, d'être mal compris et injustement mal jugé, d'être déconsidéré dans votre personne? Je crois qu'aucun d'entre nous ne pourra lever la main et dire « c'était un des meilleurs moments de ma vie ». Sinon, il faudrait qu'on discute éventuellement après. Mais c'est désagréable, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est profondément blessant, c'est une meurtrissure intérieure. Et pourtant, nous sommes pécheurs. Autrement dit, pourtant, nous ne mériterions pas d'être bien traités. Mais c'est tout de même quelque chose qui nous blesse et c'est compréhensible. Alors combien plus lorsqu'il s'agit de l'homme ayant toujours aimé Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute sa force, et ayant aimé son prochain comme lui-même, l'homme qui a souffert pour ceux qui devaient souffrir, celui qui a quitté la gloire du Père et a pris la condition d'un serviteur, d'un esclave. Lui qui insultait, nous dit Pierre, ne rendait pas l'insulte. Lui qui maltraitait, ne faisait pas de menace. Lui qui a toujours éprouvé plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lui qui épuisait et désirant se retirer à l'écart pour prier et être dans la communion de son Père, se laissait déranger par les foules affamées et malades pour les guérir et les bénir. Et pourtant, quelle réputation a-t-il eu? C'est un buveur et un pécheur, disaient les pharisiens. Un ami des collecteurs d'impôts. C'est un sorcier, disaient d'autres. Il chasse les démons par Béelzébul, l'esprit du diable. Même sa propre famille, souvenez-vous dans l'Évangile, lorsqu'il voit que la foule se précipite sur Jésus et qu'il n'a même pas le temps de manger, lui et ses disciples, parce qu'il s'occupe de ses nécessiteux, ses frères et sa mère disent « Il a perdu la raison, il est fou. » Le Christ Jésus a été méprisé. Et la première leçon, c'est que donc Jésus n'a pas seulement eu à souffrir dans sa chair, mais dans le plus profond de son âme. C'est toute sa nature humaine, dans toutes les dimensions où il était possible qu'elle souffre, qui a enduré la peine et l'opposition des pécheurs. Et en ce sens, il n'y a pas mieux placé que Jésus pour vous comprendre lorsque vous-même vous sentez méprisé, négligé, injustement. Il n'y a pas plus approprié que le Christ Jésus pour compatir aux préjugés dont vous pourriez être victime pour la cause de Dieu, je précise, pour la cause de Dieu. Leçon numéro 2. Dieu se charge de la réputation du Messie et permet qu'il soit déconsidéré et méprisé. Et ainsi, nous voyons là que la priorité de Dieu en envoyant le Christ pour accomplir le salut de nos âmes, sa priorité n'était pas de tout faire pour qu'il soit apprécié de tous. Autrement dit, Dieu, contrairement à nous, souvent, n'a pas pour priorité que tout le monde nous apprécie. Il n'avait pas pour priorité que tout le monde apprécie son Christ. Les pécheurs orgueilleux ne sont pas la priorité de Dieu, mais bien ceux qui humblement reconnaissent leur péché. Et tout au long des évangiles, nous verrons Jésus faire la distinction entre ces deux types de pécheurs. Ceux qui se reconnaissent pécheurs et ceux qui ne se reconnaissent pas pécheurs. Ceux qui sont pleins d'orgueil, même si peut-être ils peuvent reconnaître qu'ils sont pécheurs, mais cherchent à justifier leur péché, à le minimiser. Et ceux qui ne cherchent aucune excuse et simplement s'humilient devant Dieu. Le pharisien qui au temple prie et dit « Merci de ce que je ne suis pas comme le reste des autres hommes » d'un côté, et de l'autre côté, le collecteur d'impôts qui n'ose même pas lever les yeux au ciel et se frappant la poitrine dit « Oh, prends pitié de moi, un pécheur. » C'est à cela que Dieu veut montrer que Jésus-Christ est un bienfaiteur, qu'il mérite notre approbation. C'est auprès de cela que Dieu travaille à susciter des affections positives, bonnes envers le Christ Jésus. La priorité de Dieu n'est pas que tous les pécheurs est une bonne image, une bonne idée de Dieu. C'est la deuxième leçon. Ça nous amène à notre leçon suivante. Quel est l'intérêt de ça? Eh bien, en permettant que Jésus grandisse à Nazareth et subisse un préjugé injustifié, Dieu expose au grand jour l'hypocrisie et l'aveuglement des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils partent d'un préjugé qui peut être compréhensible, puisque à Nazareth et en Galilée, effectivement, de forts tempéraments, des gens qui négligent la piété, etc., etc. Mais ils ont vu et ils verront le Christ agir. Ils entendront son enseignement. Ils verront et observeront sa conduite devant les hommes et aussi dans l'intimité de la compagnie de ses disciples. Ils auront tous les éléments devant eux, devant leurs yeux, pour corriger leurs mauvaises pensées concernant Jésus, pour corriger leurs préjugés concernant ce Nazaréen. Et pourtant, combien vont persister dans cette image fausse de Jésus, simplement pour peut-être justifier leur rébellion et leur refus de se soumettre à ce roi, ce fils de David. Jésus a toujours été impeccable, irréprochable en parole et en acte, et malgré les évidences de sa justice, les hommes ont préféré maintenir et répandre leur jugement de préjugés concernant Jésus. Troisième leçon donc, nous voyons là la sagesse de Dieu qui, en permettant que Jésus soit né à Nazareth et grandisse avec cette réputation de Nazaréen, Dieu met en évidence l'hypocrisie et l'aveuglement des hommes, parce que lorsqu'ils ont toutes les preuves devant les yeux, malgré cela, ils rejettent Jésus. Quatrième leçon, en permettant que le Christ soit injustement méprisé, en conduisant la vie du Seigneur Jésus au travers des péripéties de son enfance, de sorte qu'il habite dans cette région déconsidéré de Galilée, Dieu souligne que la mauvaise réputation n'est pas synonyme d'abandon. La mauvaise réputation n'est pas synonyme d'abandon. Tout au long de sa vie, Christ va avoir des témoignages de la fidélité de son Père envers lui. Quand tous les hommes et même la foule finira par le rejeter et à crier « Crucifie-le, crucifie-le !» Dieu continuera de lui maintenir sa bonté, la preuve la plus éclatante étant la résurrection. Et nous le voyons même dans notre texte de Matthieu, la fidélité de Dieu envers le Christ Jésus, alors que Hérode a un avis négatif du Christ et que certainement il a transmis à son fils Archélaüs, son successeur, cette image négative du Messie, puisque très souvent lorsque les rois mouraient et que leurs fils prenaient leur suite, ils donnaient des consignes, et notamment « tu feras périr » et ils faisaient une liste de certains ennemis qu'ils n'avaient pas réussi à faire périr. Il est très probable qu'Archélaüs était en accord avec son père, puisque, on le sait par les historiens, il a fait une grande fête pour célébrer la mémoire de son père quelques jours après sa mort. Et dans ces circonstances, il a aussi mis à mort plusieurs milliers de Juifs qui s'étaient rebellés contre les horreurs que commettait Hérode. Et donc on peut comprendre que Joseph, en revenant en Israël et en apprenant que Archélaüs règne à la place de son père, soit rempli d'inquiétude et soit préoccupé par son sort. Mais où est-ce que nous voyons la fidélité de Dieu ? Eh bien alors que les puissants font une mauvaise réputation du Christ Jésus par jalousie et par rivalité. Verset 19, Dieu envoie un ange à Joseph, Marie et Jésus. Et versets 22 et 23, nous l'avions déjà souligné, Dieu entend, Dieu voit et accorde de l'importance aux inquiétudes de Joseph et va divinement le conduire dans un contexte plus paisible, plus serein. Il le console. La mauvaise réputation n'est pas synonyme d'abandon. Et si vous êtes chrétien ce matin et qu'il vous arrive de craindre l'hostilité à cause de votre foi, de votre attachement au Christ, comme Joseph pouvait craindre pour sa vie, pour sa réputation, pour sa tranquillité, à cause de son attachement au Christ, si vous avez même eu à subir de manière factuelle le mépris, les préjugés, et que peut-être la chair et Satan ont travaillé ensemble pour vous faire douter et vous donner l'impression que peut-être le problème vient de moi, sachez que l'opposition des hommes, la mauvaise réputation qui vous est faite parce que vous êtes chrétien, je dis bien parce que vous êtes chrétien, et non pas parce que vous faites le mal, ça c'est autre chose. Si nous faisons le mal, nous méritons d'être en difficulté. Mais si cela vous arrivait parce que vous êtes chrétien, c'est tout l'inverse du signe de l'abandon de Dieu. Lisez avec moi un passage, j'espère, qui vous encouragera dans 1 Pierre, la première épître de Pierre. Et voilà ce que nous trouvons. Au chapitre 4, à partir du verset 12. Pierre 4, verset 12. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. » Les chrétiens auxquels il écrit étaient particulièrement éprouvés à cause de leur foi. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange, ne soyez pas surpris, comme si c'était étonnant. Verset 13. « Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. » Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Autrement dit, être méprisé, recevoir l'hostilité à cause de mon attachement à Jésus, ce texte nous dit, c'est une preuve que vous êtes unis à Jésus et que Dieu a fait reposer sur vous son Esprit. Oh, quelle gloire ! Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas ? quand il nous serait si facile parce que nous connaissons nos péchés et nous sommes conscients de nos limites, si facile du coup de peut-être se mettre à douter et nous dire mais peut-être que je n'ai pas raison de rester attaché au Christ aussi fermement. Et ce texte vous dit, c'est tout l'inverse. C'est justement ça qui confirme que vous êtes bien enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Verset 15, il fait cette précision que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas. Qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom, à cause du nom de Christ. Frères et sœurs, êtes-vous conscients du privilège de porter le nom de chrétien? Ça veut dire que devant les anges et devant les démons, devant les principautés, devant les autorités dans les lieux célestes, mais aussi devant les hommes de tous les temps, au grand jour du jugement, Dieu séparera la foule en deux. Ceux qui, d'un côté, se réjouiront de porter le nom de chrétien et tout ce que ça implique, parce qu'ils ont aimé le Christ plus que leur propre vie, au point même d'aimer, d'être méprisés à cause du Christ. Et de l'autre côté, ceux qui auront eu honte du Christ et de ses paroles, comme il le dit dans l'Évangile. Et Jésus dit, j'aurai aussi honte d'eux devant mon Père. Ne rougissons pas donc, car la mauvaise réputation à cause du Christ n'est pas le signe de l'abandon de Dieu, mais au contraire le signe de son approbation. Venons-en à quatre applications. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Les disciples du Christ, première application, ne doivent pas s'attendre à être mieux compris donc et mieux traités que leur maître. Et ça, c'est une erreur qu'on pourrait tellement faire, tellement facilement commettre. Jean chapitre 15, verset 20, Jésus dit que l'esclave n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont rejeté le maître, ils vous rejetteront aussi. S'ils ont gardé la parole du maître, ils garderont aussi votre parole lorsque vous témoignez. Ne nous attendons pas à être mieux traités que Jésus dans ce monde où l'hostilité entre les deux lignées continue. Satan ne dort pas. Le péché ne se repose pas. Et le royaume de Dieu, gloire à Dieu, ne s'arrête pas de progresser. Et donc forcément, il y a une opposition constante et nous sommes en plein dedans, que nous le voulions ou non. Et dans cette opposition entre ces deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan, il n'existe aucune zone où les gens peuvent agiter le drapeau blanc et dire « nous sommes neutres ». Le Christ Jésus, de sa propre bouche, dira « on est ou bien contre moi, ou bien avec moi ». Et donc, ne soyons pas étonnés et ne pensons pas que nous serons mieux traités, mieux compris, mieux estimés, mieux considérés que le Christ lui-même ne l'a été. Alors, deux choses avant de passer à la deuxième application. Bien évidemment, nous ne cherchons pas, de manière bête, l'hostilité. Nous ne devons pas chercher et provoquer inutilement l'opposition. Mais si cela ne vient jamais, si vous n'avez jamais été opposé, si vous n'avez jamais été la source de mépris ou d'hostilité par rapport à votre foi, vous n'êtes pas disciple. Je le redis. Si jamais dans votre vie, vous ne rencontrez d'hostilité dans la moindre mesure, d'opposition parce que vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien. Et si vous pensez que je vais un peu fort. Je cite simplement 2 Timothée 3, verset 12. Car en effet, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Paul ne dit pas la plupart d'entre eux, quelques-uns d'entre eux. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et évidemment, il y a différents niveaux de persécution. Il ne s'agit pas de dire que si vous n'avez pas été mis en prison, vous n'êtes pas un vrai disciple. Il y a des contextes. Mais en revanche, s'il n'est jamais arrivé que dans votre entourage, on vous fasse voir de l'opposition, de l'hostilité, du mépris, parce que vous êtes chrétien, alors vous n'êtes pas chrétien. Deuxième application. Ici, cette application n'est pas pour tous les disciples du Christ en général, mais plutôt pour les parents chrétiens. Et donc, je me fais comme la précédente, mais celle-ci, évidemment, aussi à moi, en premier, l'application. Parents chrétiens, vous devriez et nous devrions aider nos enfants à réaliser la difficulté particulière de leur situation. Parce qu'ils sont nos enfants et que nous sommes chrétiens, nous faisons des choix de vie qui sont conformes au royaume de Dieu, mais qui du coup, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, vont à contre-courant des choix faits par les familles qui nous entourent, notamment les familles qui ne craignent pas Dieu, qui n'aiment pas l'Évangile. Et ces choix nous placent régulièrement en marge ou en porte-à-faux avec le train de vie, avec ce qui est à la mode, ce qui est estimé, ce qui est considéré dans ce monde. Et nous devons, et je dois, en tant que père chrétien, réaliser le défi, la difficulté que c'est pour mes enfants, que c'est pour nos enfants, d'avoir à affronter le mépris, l'incompréhension des camarades parfois, lorsqu'il est légitime, et on le veut tous, être accepté, être considéré, être compris, être apprécié. La pression du groupe n'est pas une fiction, c'est une réalité. Si nous, adultes, et quel que soit notre âge, nous pouvons la ressentir, combien plus les jeunes gens, combien plus les enfants et les ados. Alors, comment faire pour les aider? La liste, je propose deux choses ici, ce n'est pas exhaustif, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais il me semble qu'il est important d'avoir une oreille attentive aux difficultés relationnelles qu'ils pourraient rencontrer, pour ensuite en donner une explication biblique. Essayer de faire comprendre quels sont les enjeux dans les tensions, dans les difficultés relationnelles, pour les aider à comprendre, simplement. Deuxième piste importante, il me semble, vivre en modèle en tant que parent. Vivre en modèle de joie et de paix face à cette réalité que, oui, dans ce monde, nous serons méprisés. Alors, si les parents sont déstabilisés, troublés et, je dirais, tremblants à l'idée d'être mal compris, qu'est-ce qu'ils vont communiquer? Eh bien, il n'y a rien de plus terrible que d'être mal compris parce que je suis chrétien. Alors, voilà notre responsabilité, mais aussi aux autres adultes qui, peut-être, ne sont pas parents. À nous tous chrétiens, la responsabilité d'être des modèles de paix et de joie, même face à la perspective d'être maltraités. Laissez-moi rapidement vous pointer un texte qui le confirme. Dans l'évangile de Matthieu, vous le connaissez, nous sommes dans les Béatitudes. Qui est-ce que Jésus déclare heureux? Chapitre 5, versets 11 et 12. Le Seigneur Jésus déclare « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Quel encouragement profond. Et quelle perspective glorieuse à mettre devant les yeux des plus jeunes lorsqu'ils font face à ce défi relationnel. Regarde, aux yeux de Dieu, si tu es un disciple de Jésus qui souffre parce que tu es chrétien, Dieu dit, tu seras assis à la table de Moïse et d'Abraham et d'Ésaïe et d'Élie. Quelle perspective tout à fait différente, n'est-ce pas ? Et glorieuse et désirable. Tu seras traité comme eux, nous dit le Seigneur Jésus. Troisième application. Le fait que Jésus soit appelé Nazaréen et que Dieu donc ait permis qu'il ait une mauvaise réputation aux yeux de beaucoup de pécheurs doit nous faire réfléchir à l'un des principaux obstacles à l'évangélisation. Je m'explique. Accepter cette réalité que nous serons parfois et même souvent mal compris en tant que chrétiens enlèvera un frein au témoignage explicite et à l'évangélisation. Qu'est-ce qui souvent nous ralentit ? En tout cas, je veux dire, qu'est-ce qui souvent me ralentit ? Peut-être que vous n'avez pas ce problème, mais je crois qu'il est assez commun. Qu'est-ce qui souvent nous rend hésitants à ouvrir la bouche pour dire une parole de témoignage concernant le Christ Jésus, concernant ce qu'il a enseigné, ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui nous empêche souvent de raconter et de faire ce que nous chantons parfois ? Redites-moi l'histoire. Eh bien, je crois que c'est souvent cette crainte d'être incompris. Parce qu'il ne va pas penser que je suis dingue, ou que je suis un fanatique, ou que je suis etc., etc., etc. Que je suis bête, peut-être. Mais si nous cherchons à plaire aux hommes, nous dit Paul, nous ne sommes plus serviteurs de Dieu. Nous devrions, au contraire, si nous voulons mieux servir les hommes, ça paraît paradoxal, mais ne pas chercher à leur plaire d'abord, mais chercher à plaire à Dieu. Regardez ce que Jésus disait dans Jean chapitre 7 au verset 7. Le monde ne peut pas vous haïr, vous, parce que vous êtes du monde, mais le monde me déteste parce que je témoigne contre lui que ses œuvres sont mauvaises. Et pourtant, qui était le meilleur prédicateur du monde et le meilleur évangéliste ? N'est-ce pas Jésus lui-même ? Et le meilleur évangéliste, le meilleur témoin de Dieu sur la terre, nous dit qu'il n'hésitait pas à dire des choses au monde qui confrontaient le monde et son péché. Alors, rejetons nos réticences et nos mauvais raisonnements. Nous pensons parfois que mettre les gens en face de la réalité de leur péché, avec tact évidemment et respect, mais avec clarté, nous pensons que c'est aller à l'encontre de l'évangélisation, de les rapprocher de Dieu. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Quatrième et dernière application. Donc, je rappelle juste pour résumer la troisième. Parce qu'il est évident que nous serons de toute manière mal compris, parce qu'il y a un aveuglement spirituel, une hostilité entre deux lignées, et parce que Jésus nous a montré le modèle, n'hésitons pas à être clairs quand nous témoignons, à être explicites dans notre foi. Enfin, dernière application, et cette application concerne davantage parmi nous, les inconvertis ce matin. Vous avez ici devant les yeux le choix, je dirais, principal, le choix majeur de votre vie devant Dieu. Choisir entre la gloire des hommes, y compris votre gloire, et la gloire de Dieu. Il sera impossible de travailler autant pour la gloire de Dieu que pour votre propre gloire et la gloire des hommes. Il sera impossible de travailler autant pour avoir l'approbation des hommes que pour avoir celle de Dieu. À un moment ou à un autre, la pression sera telle d'un côté ou de l'autre que vous serez obligé de pencher. Alors, pourquoi ne pas faire le choix maintenant? Pourquoi ne pas choisir aujourd'hui la gloire de Dieu? La gloire à laquelle Dieu vous invite et qu'il veut vous faire partager en vous faisant porter le nom de Christ en tant que chrétien. Qu'avez-vous à y gagner? Infiniment plus que ce que l'approbation des hommes pourrait vous procurer. Vous gagnerez le salut de l'âme, le pardon de vos péchés, l'acceptation sans frein et sans interruption de Dieu lui-même. Vous serez enfin en train d'accomplir le sens de votre vie, parce que vous n'avez pas été fait pour courtiser l'approbation et les applaudissements des hommes, mais vous avez été créé pour glorifier le Créateur et prendre plaisir en lui pour l'éternité. Vous trouverez enfin la liberté du piège et du mensonge du diable qui vous fait penser qu'il est plus honteux de déplaire aux hommes, plus terrible, plus redoutable de déplaire aux hommes que de déplaire à Dieu. Oh, tout ce que vous avez à gagner et tout ce que Christ vous offre gratuitement, ce à quoi il vous invite tendrement. Et si vous doutez de sa tendresse, regardez à la croix. Quelle tendresse faut-il pour se laisser crucifier lorsque l'on est le Seigneur de gloire? N'est-ce pas là une tendresse divine? Venez à lui et recevez en partage de pouvoir entrer constamment, gratuitement, dans la présence glorieuse de Dieu. Prions.